Bonsoir. Un premier lot de vaccins contre Ebola est arrivé à Kinshasa. Le ministre de la Santé publique qui a annoncé cette nouvelle ce mercredi précise que c'est au moins 5400 doses disponibles pour freiner la propension de cette maladie. Entre-temps, après Bikoro, un nouveau cas de personnes contaminées a été signalé à Ouangata, toujours dans la province de l'Équateur. Comment analyser cette 9e épidémie d'Ebola en RDC? C'est la question du débat de ce soir et nous en parlons avec Dr Baté Njoloko, il est directeur général de la direction générale de lutte contre la maladie au ministère de la Santé publique. Il est au téléphone. Bonsoir Dr Baté Njoloko.
Bonsoir Monsieur Alain.
Rifin Kibari, historien de la maladie Ebola, auteur des trois ouvrages sur le virus Ebola à Kikwit. Il est aussi au téléphone. Bonsoir Monsieur Rifin Kibari.
Bonsoir Guy Maté.
Et ici au studio, nous avons M. Jean-Baptiste Bomanza, acteur politique notable de l'Équateur et porte-parole des ressortissants de Bikoro. Bonsoir M. Jean-Baptiste Bomanza.
Bonsoir M. les journalistes.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Un nouveau cas de maladie à virus Ebola dans la zone de santé de Ouangata, dans la ville de Mbandaka. Cette annonce a été faite ce mercredi par le ministre de la Santé publique qui a précisé qu'avec ces nouveaux cas, la RDC entre dans une nouvelle phase de l'épidémie d'Ebola qui touche désormais une zone de santé urbaine. Écoutez Dr Oli Ilunga, ministre de la Santé, au micro de John Bompengo.
Ce week-end, deux cas suspects de fièvre hémorragique ont été notifiés dans la zone de santé de Ouangata, l'une des zones de santé de la ville de Mbandaka. Après analyse, l'un des deux échantillons s'est révélé positif à la maladie à virus Ebola. Nous entrons donc dans une nouvelle phase de l'épidémie à virus Ebola, qui touche désormais trois zones de santé, dont une zone de santé urbaine. Depuis l'annonce de l'alerte à Mbandaka, nos épidémiologistes travaillent sur le terrain avec les relais communautaires pour identifier les personnes ayant été en contact avec les cas suspects. C'est sur base de la liste des contacts que nous pourrons déclencher, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, une nouvelle composante de la riposte, à savoir la vaccination.
Et à ce sujet, un premier lot de vaccins contre Ebola est arrivé à Kinshasa. C'est au moins 5400 doses disponibles pour freiner la propension de cette maladie qui s'est déclarée dans les territoires de Bikoro, dans la province de l'Équateur. Pour le ministre de la Santé publique, le docteur Oli Ilunga, qui garantit que toutes les dispositions sont prises pour sa bonne conservation, il ne s'agit pas d'un vaccin expérimental comme les font penser certaines personnes qu'il qualifie de mal intentionnées. Écoutez le ministre de la Santé une fois de plus au micro de John Bompengo.
C'est un vaccin qui n'est plus expérimental. C'est un vaccin qui a prouvé son efficacité. C'est un vaccin qui a été élaboré effectivement pendant l'épidémie en Guinée à partir du sérotype Zaïre. Donc lorsqu'il y a eu le problème de maladie à virus Ebola en Guinée, il fallait rapidement préparer un vaccin. Ils n'ont pu le préparer qu'à partir des souches existantes. Donc c'est la RDC, les souches de la RDC qui avaient contribué à élaborer les souches vaccinales pour l'épidémie en Guinée. Donc ce vaccin a été testé et toutes les personnes qui avaient été vaccinées avec le vaccin sérotype Zaïre n'ont pas développé de maladie à virus. L'efficacité a été démontrée, ça a été validé par l'OMS et les autorités scientifiques mondiales. Aujourd'hui, qu'il y a une épidémie, nous devons utiliser toutes les ressources disponibles pour épargner un maximum de vies.
Docteur Baté Njoloko, directeur général de la direction générale de lutte contre la maladie au ministère de la Santé publique. La fièvre hémorragique d'Ebola refait surface en RDC pour la 9e fois. Et quelle est l'explication que vous donnez à cela en tant que médecin?
Ok, bonjour monsieur le journaliste, et nous saluons vos auditeurs et nous avons une pensée pieuse aux personnes qui sont une fois de plus mortes à cette 9e épidémie Ebola, comme vous venez de le dire, et toutes nos compassions à toutes leurs familles. C'est des épreuves difficiles pour ceux qui ont connu et qui ont vécu la situation physique et morale que ces familles endurent et la perte et tout ce que cela s'ensuit. Évidemment, le problème de pourquoi une 9e ou une 10e ou une 11e, le problème de Ebola, c'est que la science n'a pas encore maîtrisé tous les contours de la survenue de cette pathologie qui circule entre les humains et le monde animal. Notre écosystème est favorable à tout cela, mais nous pensons que avec la survenue de chacune des épidémies, la science va encore avancer davantage. Cette épidémie va contribuer davantage à cela. Et pour nous, on ne se pose pas la question pourquoi encore, mais tant qu'on n'a pas encore maîtrisé tous les contours de cette contamination humaine par cette maladie qui a des origines animales, on ne peut pas beaucoup s'interroger. Par contre, la question pour nous, c'est de se dire est-ce que nous sommes suffisamment armés pour que chaque fois qu'il y a survenu d'un seul cas, qu'on puisse intervenir le plus efficacement particulièrement sur deux indicateurs. L'épidémie ne s'étende pas beaucoup en termes de territorial et que les personnes touchées puissent mourir le moins possible. Et ça, sur cette question-là, je pense que le pays aujourd'hui est suffisamment préparé avec tous les partenaires et toutes les organisations mondiales. Voilà mon explication à ce stade.
Docteur Baté Ndjoloko, 21 cas de fièvre avec des signes hémorragiques avaient été notifiés depuis le 3 mai dernier, dont 17 décès dans la zone de santé de Bikoro à l'Équateur. Mais c'est seulement le mardi 8 mai dernier que l'épidémie a été déclarée officiellement. Docteur, on a tendance à reprocher souvent à la RDC de réagir en retard. Et quand on voit les temps que nous avons pris, n'est-ce pas, pour réagir face à cette nouvelle épidémie, est-ce qu'on peut dire que nous avons une fois de plus réagi en retard?
On ne peut pas se s'auto-flageller. Si nous comparons la survenue de la dernière grosse épidémie qui est arrivée en Afrique de l'Ouest, nous sommes extrêmement capables de détecter rapidement nos épidémies, y compris celle de l'Ikati et celle-ci. Le temps est suffisamment court. Est-ce qu'il faut se contenter de cela? Les efforts doivent être faits. Notre système doit encore s'améliorer. Et cette épreuve en est encore une autre occasion d'améliorer. On n'a pas détecté avec un retard que quiconque pourrait dire que non, le système est moins réactif. Non, je ne suis pas convaincu de cela. Et même si vous faites les reculs de l'épidémie, des Kikwit et autres, maintenant, la détection est beaucoup plus rapide.
Oui, le week-end dernier, on a suivi le ministre Oli Ilunga qui disait que tout le monde était mobilisé pour que la riposte soit effective. Et docteur, qu'est-ce qui a été fait concrètement pour organiser cette riposte?
Ok, cette réponse, je vais la classer à plusieurs niveaux. Hein. Le premier niveau, d'abord, c'est le niveau politique. Je pense que vous avez suivi que le dimanche, le chef de l'État a reçu le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire le patron mondial de la santé. C'est une première lorsqu'une épidémie survient et à la toute première semaine que les patrons de l'OMS arrivent et qu'ils soient reçus par le chef de l'État du pays et que le même jour, le directeur général est arrivé dans les suites à Bikoro. Je faisais partie, puisque j'ai accompagné le ministre Oli Ilunga et dans cette délégation. Ça, c'est le niveau politique. Il en est de même avec le décaissement des premiers fonds mis à disposition. Et ça, c'est la partie politique et stratégique de la réponse qui a été extrêmement rapide et de très, très haut niveau. Et ça, c'est un capital très, très important. Alors, pour revenir maintenant aux aspects purement techniques de la lutte pour nous, les techniciens, le premier cas a été confirmé entre la notification et la confirmation du premier cas, malgré les difficultés logistiques, à moins d'une semaine et de la survenue, au fait, le temps que l'échantillon arrive ici, ça nous a pris autour de 48 heures. Et à moins de 48 heures, la réponse commençait déjà à se construire. Aujourd'hui, on est à une semaine, toutes les batteries sont déjà en place. Ça voudrait dire quoi? Les experts en épidémiologie sont déjà à Bikoro, à Iboko et à Tondo, en Bandaka. Les experts en prise en charge, nous avons un centre de traitement qui prend en charge les malades À Bikoro, moi j'ai été là et j'ai vu avec nos partenaires de l'OMS, UNICEF et pratiquement MSF Sans Frontières. En Bandaka, les deux cas qui étaient là, fort dommage, les trois cas qui étaient hospitalisés, dont un était confirmé, un des suspects venait de mourir pendant que nous étions avec le numéro 2 de la MONUSCO aujourd'hui en Bandaka. Et on est en train de monter, d'ici 48 heures, le deuxième centre de traitement Ebola sera installé dans la périphérie de Mbandaka, se disant que Mbandaka, c'est une ville d'environ 1 million d'habitants, ce centre ne devait pas rester en plein centre de Mbandaka à l'hôpital.
Docteur?
Et ça, oui.
Le fait que l'épidémie vient d'atteindre les zones urbaines, on a parlé de Mbandaka, et peut-on conclure que cette riposte qui a été, n'est-ce pas, initiée n'a pas été efficace?
Non, je continue à dire que la riposte est efficace. Le cas de Mbandaka, ce n'est pas un cas autochtone. Un cas autochtone, ça signifie, moi je suis né à Kinshasa, je n'ai jamais bougé au Bas-Congo, je vis ici et je l'attrape. Ce cas est venu de Bikoro. Ce cas, c'est un contact d'un cas positif que nous savions positif à Bikoro. La personne s'est déplacée sur Mbandaka et s'est retrouvée dans une maison de prière. Et nos services ont fonctionné et l'ont traqué jusqu'à mettre la main sur cette personne. On a fait des prélèvements qui se sont avérés positifs. Et là, vous n'allez pas, selon le règlement santé international, on ne peut pas interdire aux gens de bouger. D'autant plus qu'il était porteur, quand il quittait Bikoro, il a été en contact avec cette personne. Voilà un peu la précision qu'il faut donner à cela. Ce n'est pas en soi une épidémie Ebola autochtone de la ville de Mbandaka, non.
Merci docteur. Merci Ruffin Kibari, historien de la maladie Ebola, auteur de trois ouvrages sur le virus Ebola à Kikwit. Qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous apprenez la nouvelle faisant état d'une nouvelle épidémie d'Ebola en RDC?
Ah oui, merci Guy Maté. Pour moi, ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas une surprise parce que le virus Ebola continue à circuler dans ce qu'on appelle la ceinture de l'Afrique. Quand vous voyez un peu la ceinture de l'Afrique, vous voyez la zone équatoriale qui va de l'Ouganda, qui passe par notre pays, qui passe au Gabon, Congo-Brazzaville, et qui va en Côte d'Ivoire jusqu'en Guinée. Donc c'est une zone, je peux dire, endémique au virus Ebola. Donc je ne suis pas surpris, mais ce que nous devons dire de ça, c'est que jusque-là, tant que le réservoir, c'est-à-dire l'animal qui vit avec le virus, qui n'en meurt pas, n'est pas détecté, nous aurons toujours affaire à des épidémies genre Ebola. Parce que nous ne savons pas ce virus vient de quel animal. Et je veux vous dire que la recherche avance du côté des anticorps. Mais la recherche n'avance pas du côté du réservoir. Bon, on doit faire un grand effort dans la recherche du réservoir. Parce que tant qu'on ne connaît pas le réservoir du virus Ebola, et même nous ici à Kikwit, c'est vraiment l'inquiétude. C'est l'inquiétude. Parce que je vais vous dire que en 2017 ici, en 2008, c'était en 2017, au mois de juillet, j'ai fait une grande enquête ici dans la ville de Kikwit, une enquête sur les anticorps Ebola. Cette enquête était menée à partir de chercheurs de l'université de l'UCLA, l'université de Californie aux États-Unis d'Amérique. Ces chercheurs se sont fait accompagner des chercheurs de l'école de santé publique de la RDC et aussi de l'Institut national de recherche biomédicale, INRB. Donc, à Kikwit, on a pu aussi prendre certains médecins, certains laborantins, et c'était une grande recherche, une avant-première depuis 23 ans de l'apparition Ebola dans la ville de Kikwit. L'importance de cette recherche, c'était de découvrir les anticorps Ebola dans les personnes ciblées. Ici, les personnes ciblées étaient les survivants de la maladie Ebola de 1995, les contacts de 1995, c'est-à-dire les membres des familles, agents de santé de 1995, et aussi les personnes qui n'était pas à Kikwit en 1995. Plus de 700 échantillons de sang ont été prélevés. Et qu'est-ce qui est arrivé? Quelles sont les conclusions de cette enquête? Les résultats de cette enquête donnaient que chez les survivants de Ebola de 1995, on retrouve encore les anticorps Ebola. Chez certains contacts de 1995, On retrouve aussi chez certains les anticorps Ebola. Chez certaines personnes qui n'étaient pas acquittées en 1995, on retrouve aussi chez elles des anticorps Ebola. Alors quand moi j'ai posé la question au docteur, pardon, au professeur de la santé publique qui venait d'Oukla, j'ai dit, mais comment on comprend cette situation? Il m'a bien dit que le virus Ebola continue encore à circuler dans la ville de Guiquit et ses environs. Donc, nous devons faire un effort pour d'abord chercher les réservoirs.
Voilà. Vous avez une expérience, n'est-ce pas, dans la lutte contre cette maladie. On se rappelle votre implication à Guiquit il y a de cela quelques années. Monsieur Kibari, votre expérience ne peut-elle pas être mise à profit, n'est-ce pas, dans ce qui se passe actuellement à Bikoro et à Yambanaga?
Oui, notre expérience peut être mise à profit, mais malheureusement, vous savez, quand on choisit les gens pour aller à Bikoro, pour aller ailleurs, on ne songe pas aux gens de Guiquit. Alors que les gens de Guiquit ont une grande expérience sur cette maladie. Je vous dis que maintenant, ça va. Mais en 1995, le virus Ebola qui est apparu à Guiquit, c'était 19 ans après Yamboukou. Vous voyez, on était à Guiquit sans solution. Maintenant, on a quand même des solutions. Et moi, je vais vous dire aussi que ces solutions qu'on trouve aujourd'hui à Bikoro ou ailleurs, ce sont des solutions trouvées à Guiquit. Donc, en fait, les gens de Guiquit ont été victimes de la non-avancée de la science en matière d'Ebola à cette époque. Aujourd'hui, on se réjouit des vaccins, mais Guiquit n'a pas eu cette chance d'avoir des vaccins. Donc, nos regrets, c'est que quand il y a Ebola ailleurs, en République démocratique du Congo, on ne prend jamais les gens de Guiquit. On ne prend jamais les gens de Guiquit. C'est ça nos regrets. Alors que nous avons cette expérience, nous avons lutté contre cette maladie vraiment sans solution au départ. On ne savait même pas si le virus se transmettait par air, comme à Reston, aux États-Unis d'Amérique.
Monsieur Kibari, oui, quelles sont les informations nécessaires que devrait avoir la population de façon permanente pour lui permettre de prendre des dispositions afin de prévenir cette maladie? De façon permanente, qu'est-ce que la population doit savoir par rapport à cette maladie?
Oui, et d'abord, le respect des mesures d'hygiène. On doit respecter les mesures d'hygiène parce que c'est très important. Parce que souvent, nous avons dans nos coutumes des comportements qui sont contre ces mesures d'hygiène. Par exemple, le lavage des morts, les salutations à la main. Ce sont des mesures qu'on doit respecter. On doit d'abord respecter les mesures d'hygiène. Même dans les centres médicaux, on doit respecter les mesures d'hygiène. Vous savez, à Guiquit, il y a eu beaucoup d'agents de santé qui sont morts parce qu'on n'a pas respecté les mesures d'hygiène. Donc, la première chose, c'est le respect des mesures d'hygiène. Et la deuxième chose, on doit arriver à vaincre les rumeurs, parce que les rumeurs constituent un véritable goulot d'étranglement dans la lutte contre les maladies. Parce que nous, les Africains, souvent quand il y a une maladie genre Ebola, où les gens meurent en chaîne, souvent on considère cette maladie comme une punition de Dieu, comme non-respect des coutumes des ancêtres. Par exemple, à Guiquit, on disait en 1995, c'était les Landa-Landa. Donc, une punition à l'endroit de la première personne qui est tombée malade, soi-disant qu'elle aurait volé un gibier dans les pièges d'autrui, c'est ce qui faisait que cette personne et sa famille puissent mourir en chaîne.
Donc, merci. Merci, on va revenir à vous, Monsieur Rifin Kibari. Jean-Baptiste Bomanza, acteur politique et notable de l'Équateur et porte-parole des ressortissants de Bikoro. Et qu'est-ce que vous avez à dire au sujet de la fièvre d'Ebola qui sévit actuellement à Bikoro et aussi à Mbandaka?
Merci beaucoup, messieurs les journalistes. C'est avec pincement au cœur que je viens répondre à votre invitation, dans la mesure où Bikoro, c'est mon territoire d'origine. Je vais commencer par présenter les condoléances aux familles éprouvées et saluer tous les Bikoriens qui sont sur place à Bikoro, à Mbandaka et un peu partout à travers le monde. Permettez-moi, comme vous avez toujours qualifié votre émission d'émission pédagogique, présenter brièvement le territoire de Bikoro. Le territoire de Bikoro se trouve dans la province de l'Équateur. Il fait frontière avec la ville de Mbandaka à travers la commune de Wangata, qui connaît aussi des cas suspects au jour d'aujourd'hui. Bikoro a aussi des frontières avec Ingende. Bikoro a la frontière avec le Maindombe vers Inongo, en traversant le lac. Bikoro a aussi la frontière avec Kiri, dans le Maindombe. Et Bikoro a la frontière aussi avec Brazzaville à travers le lac et aussi la frontière avec Lukolela.
Donc Bikoro n'est pas enclavé?
Non, parce qu'il y a possibilité que cette maladie s'étende à travers les différentes frontières que je viens de citer tout à l'heure là. Et si il y a eu promptitude dans l'intervention, c'est à partir de l'OMS qui a lancé l'alarme. Et c'est ainsi que ça a réveillé le gouvernement de Kinshasa ici. Et on a commencé à faire des démarches pour maîtriser la maladie. C'est suite au degré de dangerosité qui risque, la maladie qui risque de s'étendre à travers plusieurs milieux, que l'OMS est intervenu promptement. Alors, je vais me permettre aussi, à travers le contact que j'ai, de présenter brièvement la situation sur le terrain. D'abord, la journée d'aujourd'hui à 13h30, je suis via RFI, l'OMS a donné des éléments, 32 cas suspects avec 23 morts, dont un en Bandaka. Je ne me suis pas arrêté à suivre RFI, mais j'ai interrogé le président de la société civile de Bikoro, qui est sur place à Bikoro Centre, au bord du lac Toumba, M. Boumar. Monsieur Boumar me dit qu'il y a eu, on a enregistré 55 cas de suspects, 23 morts, dont un en Bandaka, tel que j'ai eu à le dire. Et puis, il y a la situation sur terrain où la population est en train de banaliser un peu cette maladie. C'est un peu comme notre frère qui a parlé avant moi.
Kibari, qui est à Kikwit.
Ah, où on dit non, c'est la sorcellerie, c'est le mauvais sort. C'est pourquoi le président de la société civile a préféré qu'il y ait une campagne de sensibilisation de la population afin qu'elle prenne conscience que la situation est sérieuse.
Alors, lorsque vous donnez ces chiffres, M. Boumanza, on a l'impression que la maladie est en train de s'étendre. On n'arrive pas à contenir la maladie, en dépit de la riposte qui a été organisée.
Oui, la maladie est en train de s'étendre. Quand vous prenez Bikoro Centre, non loin de là, il y a une mission protestante, Tondo. Il y a aussi des cas à Tondo. Vous partez à Ikoko-Impeng, la route nationale qui va jusqu'au niveau du lac Maindombe. Vous partez à Itipo. Vous partez à Iboko, où se trouve une grande mission catholique. C'est là où je fais mon école primaire. Et donc, la maladie est en train de s'étendre.
Et en tant que notable, n'est-ce pas, de là, quelle peut être votre contribution dans la sensibilisation de la population afin qu'elle intègre des différentes mesures de prévention par rapport à cette maladie?
Non, je crois que notre contribution va partir de la grande assemblée générale que nous allons avoir ici à Kinshasa, sous la présidence du président Médard Bompoko, où tous les Bikoriens devront se retrouver et mettre en place des stratégies, surtout en ce qui concerne la sensibilisation, pour éviter que cette maladie ait des répercussions dangereuses.
Les faiseurs d'opinion que vous êtes, vous avez un rôle important à jouer, surtout quand il faut sensibiliser les gens sur comment lutter contre la peur, contre la rumeur et surtout contre la stigmatisation. Est-ce que le gouvernement a tenté de vous contacter pour vous associer dans cette campagne de sensibilisation?
Depuis que nous avons agité la sonnette d'alarme, le gouvernement ne nous a pas contactés. Enfin, ce qui est regrettable dans cette affaire, c'est que Bikoro a ses fils qui sont députés nationaux, qui ne réagissent pas jusqu'au jour d'aujourd'hui. Bikoro a ses fils qui sont...
Nous avons suivi M. Bavon Saputu qui a réagi et qui a demandé que l'on ne puisse pas s'arrêter seulement à Bikoro, qu'on puisse aller au-delà de Bikoro.
Oui, vous savez, réagir voudrait dire être ensemble avec les autres, pas de façon isolée. pour qu'ensemble nous puissions voir qu'est-ce qui doit être fait.
Donc mettre en place une synergie.
Oui, oui, une synergie pour que nous puissions voir qu'est-ce qui doit être fait pour sauver notre territoire. Vous savez, tout à l'heure, là, je vous ai donné des statistiques que j'ai recueillies auprès du président de la société civile de Bikoro, qui vient tout droit de Ikoko Impenge avec l'administrateur des territoires de Bikoro. Et ce qui m'a réjoui, c'est que depuis hier, il y a eu installation de l'appareil pour tester les suspects pour savoir si ils ont contracté la maladie ou pas. Et puis aussi, il m'a informé qu'il y a les 546 suspects qui sont sous surveillance, qui sont en train d'être testés. Et on est en train d'attendre la fin de la période d'incubation de 21 jours pour voir si ces suspects-là vont sortir de cette période indemne où il y aura encore d'autres contaminés. Et donc, nous pensons que l'effort doit être fait. Et le regret, c'est que jusqu'à aujourd'hui, j'ai tendu mes oreilles. Je n'ai pas suivi le gouverneur de l'Équateur réagir. Je n'ai pas suivi les députés provinciaux de l'Équateur réagir. Alors qu'en venant chez vous ici, j'ai suivi un député provincial du Grand Bandundu et qui réagissait par rapport à la pluie qui a causé des dégâts.
Merci. Merci, docteur Nzoloko. Il y a une réaction, une réflexion à laquelle vous allez réagir. Elle vient de Isangi.
Joseph Mombile Ayakayaka de Kisangani dans la province de la Tchopo. La résistance de cette maladie prouve des suffisances et les capacités de la politique sanitaire au niveau du Congo. Le gouvernement n'arrive pas à mettre en place une politique de prévention sanitaire. Même s'il s'agit d'agir, le gouvernement agit en retard avec une faible capacité. Prenons le cas actuel, 5400 doses sont tellement insuffisantes par rapport au territoire touché.
Oui, docteur Nzoloko.
Oui, merci encore une fois de plus. Mais je pense que, bon, moi comme technicien et directeur général de lutte contre la maladie, je dois amener quand même un certain nombre de précisions pour continuer notre débat. Et cela est extrêmement important pour une maladie comme Ebola, qu'il n'y ait pas de zones d'ombre et qu'il n'y ait pas des informations floues. La première information, c'est que ce n'est pas l'OMS qui a donné l'alerte. C'est le ministère de la Santé. Il est vrai que mon ministre n'était pas à Kinshasa, son intérimaire qui l'a fait, et c'est le vice-premier ministre qui l'a fait, le ministre d'État. Ok, alors ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, le gouverneur de Mbandaka, de l'Équateur, moi j'ai été impressionné, y compris le monsieur Davis, et aujourd'hui nous étions à Mbandaka, il a cédé un grand bâtiment qui servait d'hôtel du gouvernement pour que nous y organisions les centres des opérations d'urgence. C'est une première personne, ne l'a fait auparavant, aucun gouverneur ne l'a fait auparavant. Il faut vraiment bien fixer les choses et ça c'est extrêmement important. La troisième précision, c'est que notre intervention va cibler sept zones de santé. Qui sont lesquelles? Ingende, Tondo, Iboko, Bikoro, Bolenge, Mbandaka et Ouangata. Quatrième précision. Les mots suspects chez nous, ce n'est pas le même contenu que les contacts. Nous avons aujourd'hui 17 mai, 10 suspects. Mais nous avons 532 contacts. Un contact peut devenir suspect quand il présente les signes. Mais un contact peut rester contact et contact à vie. C'est là que je reviens et je rejoins notre collègue, notre interlocuteur, l'historien. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'il a dit. C'est le problème du réservoir qu'il faut maîtriser. Actuellement, nous avons 14 cas confirmés au laboratoire. On ne parle pas d'un cas d'Ebola s'il n'est pas confirmé par les laboratoires. Et aujourd'hui, il y a 14 cas. Et le temps, comme notre interlocuteur venait de le dire, le temps que nous puissions installer les laboratoires à Bikoro et à Mbandaka, c'est des logistiques extrêmement lourdes. Et Dieu merci, nous avons réussi à le faire en moins de 4 jours. On ne l'avait jamais fait auparavant. Et là, il faut quand même que ce soit précisé. Alors, pour revenir à notre ami, bon, moi je lui conseille de dire que le gouvernement a réagi tard. Mais il faut qu'il ait des éléments pour démontrer tard, ça veut dire combien de jours. Mais moi, je peux dire que le gouvernement a réagi extrêmement rapide et qu'aujourd'hui, nous connaissons plus ou moins. Est-ce que l'épidémie s'étend? Là aussi, comme scientifique, je ne peux pas dire que l'épidémie est étendue, sauf que s'étend. L'épidémie est étendue, ça signifie qu'il y a plusieurs foyers maintenant. Mais ces foyers-là, on ne peut pas dire que ces foyers-là s'étendent dans l'espace à ce jour. Pourquoi cela? Puisque tous les 523 contacts, pour nous, c'est des personnes que nous allons suivre minimum pendant 21 jours et voir s'ils vont présenter les signes. Et derrière les signes-là, on va les tester. S'ils sont positifs, ça signifie que ça va encore nous donner la possibilité de nous dire voilà où sont localisés les cas.
Docteur
à dire, oui.
Docteur Njoloko, vous venez de parler des 14 cas confirmés au laboratoire. Est-ce que vous confirmez aussi les chiffres que M. Boumans avait donné? Il a parlé des 23 morts et il a aussi parlé d'environ 500 suspects. Est-ce que vous confirmez ces chiffres?
Justement, il n'y a pas 500 suspects. Il y a 10 suspects, mais il y a 523 contacts. Ça, c'est des questions précises.
C'est quoi la différence?
Les décès, non, c'est pas 23, c'est 24.
C'est quoi la différence?
Mais parmi ces 24, il faut retenir qu'il y a 17 cas, en fait, 17 décès pour lesquels nous devons mener des investigations, puisqu'on n'avait pas investigué auparavant. Et nos collègues, les épidémiologistes, sont sur le terrain pour nous donner la précision autour de ces 17 premiers cas.
Est-ce que vous associez dans la lutte, n'est-ce pas? Est-ce que vous associez les communautés locales dans la sensibilisation, dans la lutte pour contenir la propagation de la maladie? Est-ce que vous pensez aussi, n'est-ce pas, aux notables qui sont ici à Kinshasa? Vous avez suivi M. Boumanza, vous sentez que ils ont, n'est-ce pas, la volonté de s'impliquer dans la lutte, mais apparemment, on ne les contacte pas, on ne veut pas les associer, n'est-ce pas, dans cette lutte-là.
Là, une fois de plus, nous allons saluer la contribution des notables, hein, puisque c'est clair qu'une maladie aussi complexe et avec beaucoup de paramètres autour, dont la partie psychologique et culturelle, les notables doivent se mobiliser. Ce n'est pas qu'on les oublie. Là, par exemple, il y a un collègue, un pharmacien Mboyo, qui est au ministère, qui est originaire du village Iboko. Le ministre l'a mis dans l'avion et il est sur le terrain.
Merci.
Comme originaire, tout en n'étant pas. Nous parlons de 523 contacts. Hein. Les contacts là, ce sont les relais communautaires, c'est les communautaires, c'est les gens qui sont dans les villages, qui connaissent les gens.
Merci.
Qui ont été en contact avec telle personne.
Merci.
Mais
est-ce
que c'est suffisant? Je dis non. On doit continuer et c'est pour cela que juste il y a 30 minutes avant le début de l'émission, on venait de boucler maintenant un plan de déploiement et de motivation de ces relais communautaires qui
Merci,
sont
docteur.
Les personnes qui vivent dans les villages, dans les rues, dans les quartiers.
Merci docteur. Monsieur Rifin Kibari, nous allons aussi écouter pour vous cette réflexion qui vient de Isiro.
Je le bien à Isiro, prouvez-le bien où il est. Et à féliciter notre partenaire OMS qui a souvent intervenu en cas d'urgence pour l'RDC. Selon des accès contre Ebola, fait secourir tant soit peu nos compatriotes qui souffrent. Il est un peu honteux de constater que le vaccin est venu de l'extérieur, alors que si l'État congolais avait une bonne politique sanitaire, il devra déjà fabriquer ses propres vaccins, ses propres laboratoires spécialisés et dotés d'équipements pour surveiller l'épidémie, car ça fait déjà 42 ans qu'il y a eu apparition de virus Ebola dans notre pays. Or, malheureusement, nos autorités interviennent toujours en urgence à lieu et place de prévenir. La surveillance épidémiologique est basée sur le feedback pour être aux informations journalières, hebdomadaires et trimestrielles, et non la déclaration politique.
Rifin Kibari.
Oui, moi je pense que ce qu'il dit, bon, l'OMS, même à Kikwite, l'OMS était intervenue en avant-première à l'époque d'Ebola, dans notre ville de Kikwit et ses environs, l'OMS était intervenue avant. Et souvent aussi, comme il vient de dire, souvent notre gouvernement intervient peut-être pas en retard, mais dans les moyens. On utilise peu de moyens, surtout financiers, pour éradiquer la maladie. C'est souvent les partenaires extérieurs. Ça, c'est aussi une grande remarque qu'on doit faire dans notre pays. Souvent, ce sont les partenaires internationaux qui donnent des grands moyens financiers, mais notre pays, notre gouvernement, même à l'époque du Zaïre, donc à l'époque de Bola Kikwit, vraiment une contribution minime par rapport aux partenaires internationaux. Alors, dire que le gouvernement, en ce qui concerne la production des vaccins, ça, il faut qu'on développe dans nos pays vraiment des grands laboratoires de recherche, comme au niveau de l'INRB. Vous voyez, même l'INRB venait d'acquérir ce qu'on appelle l'histoire la mobile, comment on appelle, pour détecter le virus Ebola. Donc les laboratoires mobiles, c'est à partir seulement de l'épidémie de Kapungu en 2007, donc en retard. Mais c'est quand même bien, vaut mieux tard que jamais.
Parce c'est Kibari.
Oui.
Est-ce que cet auditeur de Isiro n'a pas raison lorsqu'il s'étonne du fait que les vaccins viennent de l'extérieur? Nous savons que nous avons des cerveaux ici. Nous rappelons le docteur Muyembe, la lutte qu'ils ont menée, n'est-ce pas, contre cette maladie et les éléments d'information qu'ils ont fournis aux scientifiques à travers le monde pour combattre cette maladie quand elle a atteint l'Afrique de l'Ouest. Donc logiquement, c'est nous, c'est la RDC qui devait être les premiers pays, n'est-ce pas, à produire les vaccins. Et pourquoi? C'est parce que on n'a pas assez de matériel, parce qu'il n'y a pas assez de volonté. Qu'est-ce qui manque?
Oui, moi je peux dire que nous avons l'expertise nécessaire, comme le professeur Muyembe consort. Mais la recherche scientifique dans notre pays n'est pas développée. On ne donne pas suffisamment de moyens à la recherche, à la recherche scientifique. Si aujourd'hui on demande au ministère de la recherche scientifique, quel est le budget que l'État réserve pour la recherche scientifique? Vous verrez que c'est moindre. Alors, moi, je dirais, même ce vaccin qu'on vient de fabriquer, c'est à partir de nos propres échantillons de Kikwit. C'est à partir des échantillons des survivants de Kikwit. Donc, ce sont les autres qui en profitent, qui développent la science. Moi, tout à l'heure, je venais de vous dire qu'il y a eu l'équipe des chercheurs américains de l'Université de Californie qui était ici à Kikwit au mois de juillet 2007. Mais ils prennent nos mêmes matériels, nos mêmes sangs, et ils vont chez eux, développent les recherches. Donc chez nous, nous devons faire encore un effort au niveau de ce ministère de recherche scientifique qui n'a pas de moyens et qui ne fait pas évoluer les recherches dans notre pays.
Merci, Monsieur Jean-Baptiste Boumanza. Une réflexion pour vous, elle vient de Kisangani.
Freddy Bosimo Sissimi, depuis Kisangani, dans la province de la Tchouk. Cette pénélo de vaccin est une bonne nouvelle pour Bikoro car l'épidémie a atteint le point culminant. Encore faut-il toujours s'attaquer à la maladie et laisser son agent causal? C'est bien connu de tous qu'Ebola vient de la consommation de la viande de quelques animaux tels que la chauve-souris et les singes. Qu'est-ce qu'a prévu le gouvernement pour que la pauvre population locale, dépourvue des moyens, puisse refuser de manger ces viandes, sachant bien que la plupart d'entre eux vivent de cela? Tant que les conditions de vie des Congolais ne sont pas réunies, à mon avis, il sera difficile d'éradiquer une épidémie liée à la viande des singes et de la chauve-souris, car étant des viandes qui coûtent mieux pour la pauvre population, dont le pouvoir d'achat est atténué par la hausse des dollars.
Monsieur Jean-Baptiste Boumanza?
Je crois que notre compatriote a entièrement raison. Notre gouvernement n'arrive pas à adopter une attitude proactive, c'est-à-dire prévenir ce qui peut arriver et qui peut causer suffisamment du tort à la population. Et ici, je confirme, je demande au docteur d'interroger l'histoire récente. L'alerte a été effectivement donnée par l'OMS. Le monde étant un grand village, c'est lorsque l'OMS a donné l'alerte que nous tous nous avons été informés. Voilà pourquoi, sur base des éléments qu'avait le directeur général de l'OMS, il n'a pas préféré rester à Genève. Il est descendu ici pour rencontrer les officiels, peut-être pour leur dire non, la situation est plus grave. Et quand j'interroge les données du terrain, le matériel qui est arrivé à Bikoro hier, c'est venu de l'OMS. Et je vous dis que le docteur ministre de la Santé, quand il est allé à Bikoro, il devait prendre l'hélicoptère. Pourquoi l'hélicoptère? Parce que la route est foutue. Or, Mbandaka Bikoro, c'est seulement 128 kilomètres, Bikoro centre. Et donc, la route étant foutue, en mauvais état, les ministres et sa délégation étaient obligés de prendre l'hélicoptère. Ensuite, lorsque le docteur a parti de Mbandaka, me dit non, le gouverneur a mis à la disposition du staff de la santé un bâtiment. Mais qui le connaissait? Qui a informé cela? Parce que nous suivons le gouverneur d'ailleurs. Lorsqu'il y a un problème qui se pose, c'est eux le premier à tirer la sonnette d'alarme pour informer tout le monde. Alors, je suis en train de dire que la situation de Bikoro, c'est une situation préoccupante. Je peux dire même trop préoccupante.
Vous avez suivi cet auditeur d'Exangani qui a évoqué l'aspect de la pauvreté de la population. Comment vous, en tant que notable de là, comment on peut concilier cette nécessité, n'est-ce pas, de pouvoir survivre et aussi la nécessité de pouvoir lutter contre la maladie en évitant d'aller au fond de la forêt, parce que c'est là que il y a des animaux qui constituent, n'est-ce pas, les réservoirs de cette maladie.
L'auditeur a entièrement raison. Lorsque j'interroge les différents budgets de l'État, surtout à l'époque où le Premier ministre Matata était en fonction, on nous disait que chaque année, on devait construire une école et un hôpital dans chaque territoire. Mais moi, je suis arrivé chez moi à Bikoro. Je n'ai pas vu une école construite, ni un hôpital construit, sur base de ce qui avait été budgétisé. Je peux me permettre de dire que Bikoro en particulier, et Équateur en général, sont marginalisés. Nous ne cessons d'agiter la sonnette d'alarme. C'est comme si nous étions une province à part ou un territoire à part.
Et à votre avis, comment, parce que nous sommes à la fin de l'émission, comment faut-il faire pour combattre efficacement cette maladie d'Ebola?
Que le gouvernement prenne ses responsabilités, parce que le gouvernement est là pour rendre service à la population. Vous vous rendez compte, c'est le 9e cas. 9e cas, et jusqu'à aujourd'hui, les dispositions pratiques pour étouffer des fois dans l'œuf l'évolution du cas Ebola dans d'autres contrées, aucune disposition n'est prise, concrètement.
Est-ce que vous comptez descendre là-bas d'ici peu?
J'ai l'obligation de descendre là-bas. Nous allons nous retrouver d'abord à la réunion des Bikoriens sous la présence du président Médard Bompoko. Et après, nous saurons qu'est-ce qu'il faudra faire. Et je ne sais pas si c'est la conclusion.
Oui, c'est que c'est la conclusion, oui.
Oui, puisque c'est la conclusion, je lance un appel pathétique à tous les ressortissants de Bikoro, particulièrement les députés, les sénateurs, les membres du gouvernement, les cadres d'autres entreprises et même les ressortissants de Bikoro de la diaspora, de tout mettre en œuvre pour apporter tant soit peu leur contribution afin d'aider surtout à la sensibilisation des gens de chez nous qui sont en train de banaliser cette épidémie de mort.
Merci docteur Baté Njoloko. En conclusion, que faut-il pour combattre efficacement, lutter efficacement contre cette maladie?
Oui, effectivement, pour nous, la notabilité locale de Bikoro, c'est clair et doit nous aider dans la sensibilisation, puisque c'est une maladie qui est liée aux habitudes, comme on venait de le dire. Mais nous tenons à dire que le gouvernement congolais se déploie au maximum et nous allons mettre fin à cette épidémie.
Merci, merci. Merci, Ruffin Kibari, votre conclusion.
Oui, ma conclusion est que qu'on songe aussi à Kikwit, parce que Kikwit a été parmi les pionniers. Toutes ces stratégies de lutte qu'on applique aujourd'hui, ça vient de Kikwit. Les échantillons de sang, donc les vaccins, on les fabrique à partir des échantillons de sang de Kikwit.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci, à la prochaine. Bonne suite de programme sur Radio Capi.